Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre podcast numéro 14 aujourd'hui consacré au bilan du mois d'avril 2014 pour parler des films qui sont sortis en salle, en DVD et des événements qui ont marqué l'actualité du cinéma asiatique en France et dans le monde. J'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Coiffman. Salut Jérémy.
Bonjour à tous.
Sidi, bonjour Sidi.
Coucou.
Elvire.
Bonjour.
Nicolas.
Bonjour.
Yannick.
Salut tout le monde.
Très bien. Et Justin, comment vas-tu Justin?
Salut, ça va.
Alors Yannick, on va commencer par toi car un des événements du mois d'avril, c'était le BIF qui s'est tenu donc à Bruxelles. Et j'ai l'impression que tu as vu plus d'une trentaine de films cette année.
C'est exact, j'ai pu en voir 36 en fait. Donc le BIF, le Festival du Film Fantastique de Bruxelles, est maintenant, on peut le dire, un des festivals fantastiques majeurs d'Europe. Toujours au mois d'avril, donc cette année il s'est tenu du 8 au 20 avril. Festival assez dense, que ce soit en termes d'invités, en termes de programmation, avec cette année un petit focus sur l'Inde et énormément de films. Alors, c'est le festival du film fantastique, mais il faut prendre le terme fantastique au sens large, puisque le festival accueille énormément de polars, thrillers, de films de sabre. Il y a même une compétition thriller depuis un certain temps maintenant. Et l'Asie était cette année particulièrement représentée avec énormément de films. J'ai pu voir de solides thrillers comme le film coréen Cold Eye, qui est un remake d'un film hongkongais. J'ai pu voir The Five aussi, toujours coréen, donc j'en parlerai un peu. J'ai eu la chance de découvrir le Détective D2.
Oui, alors parle-nous un peu du nouveau de Suyark, hein, donc qui avait cartonné en Asie, notamment en Chine, d'où il est originaire, et qui sort, il me semble, en juillet, ou en août.
Août.
Il sort en août, donc. Donc qu'as-tu pensé du nouveau de Suyark?
Ouais, j'ai personnellement énormément aimé. Il approfondit le background qu'il avait dressé autour de son personnage et autour de la période. Donc avec cette fois-ci un personnage beaucoup plus jeune, comme l'indique le titre, qui débarque dans la ville pour se retrouver, pour finir par devenir enquêteur. Et donc enquêter cette fois-ci sur un monstre marin qui sévirait et des complots pour tuer l'empereur et toute la famille impériale. Le scénario est assez classique bien sûr, mais là il abandonne un petit peu le côté complot manipulateur qu'il y avait dans le précédent pour se laisser aller à beaucoup de fantaisie, monstres marins, énormément de beaux combats.
Est-ce que les effets numériques sont aussi hideux que dans le premier ou est-ce qu'ils sont un peu améliorés
non,
à ce niveau-là?
Non, ils sont particulièrement beaux, mis à part à la fin une ou deux incrustations un petit peu laides d'un cheval qui galope sur l'eau ou des choses comme ça. Dans l'ensemble, c'est des effets digitaux assez superbes et une 3D qui est particulièrement impressionnante. Il n'arrive pas trop à choisir entre vouloir balancer des trucs dans la gueule des gens ou utiliser la profondeur de champ. Il essaye de faire les deux en même temps, donc des fois ça fait beaucoup pour les yeux. Mais ça reste une 3D superbe, un film très prenant.
Juste une petite question, est-ce que ceux qui n'ont pas aimé le premier n'aimeront pas le deuxième?
Disons qu'on retrouve quand même, beaucoup de choses qui étaient là dans le premier, donc ça risque d'être plus difficile d'apprécier le deuxième si on n'a pas aimé le premier, mais il y a quand même beaucoup de différences, donc entre autres beaucoup plus de combats, ce qui peut permettre de l'apprécier même si on n'est pas fan du précédent.
Est-ce qu'il y a toujours les horribles gros plans qu'il y avait dans le premier en plein milieu du combat qui niquaient à peu près tout le montage?
Moi, j'ai jamais trouvé que le premier avait des horribles
ah,
gros plans.
Tu revois-le, c'est assez affreux. Mais
non plus, j'ai pas de souvenir en fait.
Bah, revois-le, hein, parce que c'est horrible.
Tu nous as parlé d'un focus sur le cinéma indien. Quels étaient les films qui étaient présentés dans cette section?
Alors, il y avait Ega, qu'on a déjà critiqué sur Istasia. Il y avait Gogo Agon, qui est une comédie zombiesque. Plutôt fun, plutôt rigolote, pas quelque chose de vraiment marquant, mais qui remplit son office. tournant plus sur la comédie que sur l'horreur, cependant. Il y avait Monson Shootout, film thriller indien, mais qui tourne un peu sur le côté métaphysique.
Et que tu n'as pas aimé, d'ailleurs, il me semble.
Que je n'ai pas du tout aimé, non, effectivement. Je trouve que sur le papier, c'est un film vraiment très intéressant, très solide. L'idée que le personnage essaye, au moment de sa mort, de trouver une manière de s'en sortir, de sauver... les choses tournent un peu bien, et toujours la corruption et la méchanceté des hommes fait que, de toute façon, les choses vont aller mal. Je trouve que sur le papier, c'est vraiment génial, mais... j'ai trouvé qu'il tournait très rapidement à vide, qu'il était très prévisible, et finalement je me suis beaucoup ennuyé, en fait.
Alors pour le coup, moi c'est un des films que j'avais beaucoup aimé l'année dernière à Cannes, où il était hors compétition, il me semble. C'était un des premiers films en projection de minuit, je crois. Ouais. Et bon, on en reparlera, parce que j'espère vraiment qu'il va sortir en France et qu'on pourra avoir un débat sur ce premier film en plus.
Bah, on peut l'espérer, et puis il a eu d'ailleurs un certain succès, il a été beaucoup apprécié. Bon, moi non. Voilà. Indien, il y avait aussi Ugly, donc que vous avez pu voir à Cannes.
Oui, et bientôt en salle d'ailleurs.
À Bonn, il était aussi.
Donc il sort à la fin du mois de mai, et on y revient le mois prochain, très certainement. Donc un excellent film, d'Anurag Kashyap.
Qui sera là sur Paris d'ailleurs.
Oh, intéressant. Donc bientôt une interview sur le site, là. Très probablement. Et enfin, l'événement, il me semble, c'était quand même la projection, donc en avant-première européenne, on va dire, enfin même pour les spectateurs francophones, de The Raid 2, de Gareth Evans.
Effectivement, c'était un moment marquant, surtout avec l'ambiance très particulière du BIF, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que le BIF a la particularité d'avoir invariablement des séances participatives. Très très motivé en salle, et là devant The Raid 2, dès qu'il y a un mec qui se faisait éclater les dents, il y avait des applaudissements, des hurlements.
D'accord, c'est... quand tu parles de démonstration, il y a personne qui s'est battu dans la salle
non là, quand même pas. Et The Raid 2 est vraiment une grosse claque, bien que très long, absolument aucune lassitude sur la durée. Gareth Evans essaye vraiment de construire quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus ample que le premier, en voulant faire, là aussi on reste dans le très classique, mais une histoire de gangsters solides, avec des trahisons, des guerres de gangs, etc. Et toujours la qualité des combats et la qualité de sa réalisation pour les filmer est absolument magnifique. Il y mélange, on a des séquences carcérales, on a des séquences de rue, c'est sublime.
Le film était également à Beaune, où tu étais, Nicolas, et que tu as couvert comme festival. Est-ce que, on sait que tu partages cet engouement, puisqu'on a pu lire ta critique donc preview sur le site. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur The Raid 2 pour compléter peut-être ce qu'a dit Yannick?
Il a bien résumé. Si je donne un petit mot sur les scènes d'action, parce qu'elles sont assez incroyables. C'est-à-dire que le principal élément à savoir, c'est que Gareth Evans a eu beaucoup de liberté et beaucoup de temps de préparation pour faire son film, notamment pour la séquence finale où il a eu un mois et demi de préparation pour créer toutes les chorégraphies et toute la mise en scène, et après pour la tournée, il a eu 10 jours de 12 heures. Donc c'est un élément très important, parce que par exemple dans une production américaine, jamais un réalisateur n'aura autant de liberté pour pouvoir créer ses scènes d'action et laisser sa création prendre le pas sur les envies de producteur. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Et donc au niveau des scènes d'action, en fait, ce qui est assez impressionnant, au-delà de la liberté qu'a eu Gareth Evans pour les tourner, c'est évidemment toute la gestion de l'espace, du cadre, du mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre l'une des trois grandes scènes d'action du film, qui est, comme vous avez pu le voir dans la bande-annonce et quelques extraits, une scène d'action de baston dans la boue, ce qui est impressionnant dans cette scène, par exemple, c'est que il y a énormément de figurants qui se battent en même temps à l'écran, que la scène est constitué quasi comme un plan séquence. Il y a juste 2-3 coupures pour quelques finish moves, mais sinon c'est quasiment un plan séquence, tout le temps en mouvement. Et dans cette scène, il y a une cinquantaine de personnes qui se battent, et chaque chorégraphie à chaque endroit du cadre est absolument parfaite, gérée de main de maître, avec une énorme maîtrise. Et donc à ce niveau-là, déjà, c'est impressionnant. Après, pour les autres combats, c'est surtout au niveau du je pense, des risques pris par les cascadeurs et aussi par les cadreurs, parce que à de nombreux moments, on se demande mais comment il n'y a pas eu de mort sur le tournage, tellement les bastons, même les scènes d'action, la scène de poursuite par exemple, les cadreurs prennent des risques, parce qu'ils se passent carrément la caméra entre eux pour continuer le plan, pour passer d'une voiture à une autre, c'est assez fou à ce niveau-là. Et c'est super fluide, super efficace, donc voilà. C'est surtout pour ça que c'est super impressionnant.
Yannick, hein.
Oui, ce qu'il faut savoir aussi sur The Raid 2, c'est que en fait, c'est l'histoire que Gareth Evans avait envie de faire pour The Raid 1. Et le budget ne l'ayant pas permis, il a fait The Raid 1. Et grâce au succès du film, il a pu faire en fait le Raid qu'il rêvait de faire. Il avait déjà écrit le scénario, il avait déjà planifié les chorégraphies, etc. Donc on retrouve en grande partie ce qu'il rêvait de faire, de faire The Raid.
Mais je crois que le budget n'est pas tellement plus élevé que le premier. Hein. Au final, le premier, c'était combien? C'était 1 million. Et le deuxième, ça doit être 4 millions, 5 millions, même pas. C'est assez impressionnant pour ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on voit à l'écran.
Il y avait quelques autres films à Bonn, j'imagine.
Oui, effectivement. Bah, alors, pour faire un petit inventaire rapide, donc, il y avait Black Call, le film qui a été primé à Berlin.
Dont on va reparler,
ensuite. Juste pour dire que je ne suis pas aussi convaincu que certains dans la pièce, même si ça reste quand même un film intéressant. Et après, j'ai vu aussi The Stone, donc c'est un film coréen, sur le jeu de Go. Donc c'est une espèce de film de gangster mélangé au jeu de Go. Donc comme dans mon cas, on ne connaît rien au jeu de Go, c'est un peu chiant. Parce que les trois quarts des scènes, enfin la moitié des scènes, c'est des scènes de jeu de Go. Donc tu te demandes pendant tout le film, mais putain, c'est quoi ce trait, je comprends rien à ce qu'il fait. Donc c'est pas tellement passionnant, surtout que l'intrigue de gangster, après, elle est pas très originale non plus. Même si les personnages et les acteurs ont quand même quelque chose d'intéressant au final.
Donc il faudrait s'essayer au jeu de Go avant de voir le film.
Ouais, ce serait mieux. Je pense peut-être qu'on apprécierait un peu mieux le film, je pense. Mais après, bon, c'est pas non plus un film.
Imagine les fans de jeux de Go. Pas,
je sais pas s'il y a des films sur le jeu d'échecs qui existent, mais ça doit pas être plus passionnant que ça. Quoi,
un film avec Christophe Lambert, Échec et Mat.
Ça a l'air
non,
génial.
Non, c'était pas Échec et Mat, c'était. C'était un thriller, mais sublime.
C'était
dans la vague Seven un peu, non?
Avec Daniel Baldwin.
Avec Daniel Baldwin et Tom Skerritt.
C'est pas Échec et Mat?
C'est pas Échec et Mat. C'est face à face. Face à face.
Il y a un film avec Sandrine Bonner aussi.
C'était pas mal.
C'est Canon ou Échec?
Oui, je l'ai vu,
j'ai regardé les films en plus.
Échec et Mat, c'était pas mal ce film en plus. Même sans connaître les règles, pour le coup, ça marchait bien.
Bon, on fera bientôt un dossier sur les autres chaussettes dans les films. Ça va être passionnant.
Et c'est comme les films où t'as du poker, des fois tu sais pas connais pas les règles et ça marche, t'arrives quand même à...
Ouais.
Alors Nicolas, quel autre sport et quel jeu de société était présent à Bonn cette année?
Sport, bah si on compte le sadomasochisme comme du sport, ça peut être dans R100 de Matsumoto.
Ah.
Et donc c'est, je sais pas si pour ceux qui connaissent Matsumoto, mais c'est...
Je crois que tu connais un peu mieux en sadomasochisme.
Pas tout le monde, mais bon, le jeu de Go, je m'en désintéresse très rapidement. Donc Matsumoto, donc je sais pas pour ceux qui connaissent Matsumoto, c'est un réalisateur complètement what the fuck, qui fait des films complètement absurdes, comiques, à la fois comiques et...
Donc il a fait Symbole et
voilà, Symbole, et d'autres films avant, je sais pas les noms.
Big Man Japan.
Voilà, donc pour ceux qui connaissent, voilà, donc c'est exactement dans le même style, sauf que le film, dans ses 30 premières minutes, commence comme un film très classique. Ce qui est intéressant en fait, c'est que le film commence comme un film très classique avec une intrigue limite tire-larme, un peu pâteau. Enfin, en gros, pour vulgariser, les 30 premières minutes sont assez chiantes. Et à bout de 30 minutes, il explose complètement son film. Il part dans tous les sens et là, le film devient absolument génial. Donc, sans trop en dire, parce que si je commence à parler du film, ça va vous spoiler, un peu vous gâcher le plaisir.
Donc, il dure que 35 minutes.
Non, il dure combien de temps? Il dure une heure et demie.
Non, mais c'était
oui,
la gounette des chiffres.
D'accord. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une mise en abîme. C'est-à-dire qu'en fait, le film est présenté. Le film que l'on voit, c'est à la base un film d'un réalisateur qui a plus de 100 ans. Et donc le film est entrecoupé comme ça, le film est comme s'il était montré à un groupe de financiers par bobine. Et donc à chaque fin de bobine, il est entrecoupé avec financiers qui sortent dans la salle à côté du cinéma et qui parlent du film, de ce qu'ils viennent voir. Et donc c'est intéressant que c'est qu'au départ, quand le film est normal, ils parlent du film comme des financiers. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le film devient de plus en plus what the fuck. Et donc les financiers, ils commencent à péter un câble, ils se demandent ce que c'est, ils se demandent ce que le réalisateur a foutu.
Donc c'est Matsumoto qui critique l'industrie japonaise qui, en même temps,
Il se auto-parodie un peu, enfin, parce que le réalisateur de 100 ans, c'est un peu lui. D'accord. Et c'est un regard assez tendre, quoi, sur. Et c'est assez drôle parce que, en fait, tu vois le réalisateur de 100 ans, qui a plus de 100 ans, qui est dans la salle de cinéma en même temps, et tu vois, il kiffe son film, tu vois, il rigole, tu vois. Donc
je pense que Erson aussi, on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il y a des chances pour qu'il sorte, les précédents films de Matsumoto étant sortis en France. Pas avant cet été, par contre, mais peut-être au début de l'année prochaine. Je sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter sur les festivals ou des questions pour Nicolas et
j'ai pas trop parlé du festival en lui-même, juste pour dire que ce serait pas mal qu'ils choisissent, bon je sais que c'est Beaune donc c'est pas Paris, il y a pas 50 000 salles, mais ce serait pas mal qu'ils choisissent des salles peut-être un peu plus grandes la prochaine fois, parce que vu le monde qu'il y a, c'est vite complet et il y avait pas mal de gens qui restaient sur le bord, à côté de la salle de cinéma sans pouvoir accéder aux projections, donc pour un festival, c'est bien d'avoir un festival public, mais au bout d'un moment si tu peux voir 4 films sur les 20-30 films pendant le festival, c'est un peu relou, quoi.
Donc, c'est un peu une victime de...
Surtout
de
que bon, les gens prennent un pass journée, les passes journées sont beaucoup moins prioritaires que les autres, et donc les gens prennent un pass pour la journée, mais au final ils voient un ou deux films, mais ils sont un peu lésés, quoi.
D'accord, je pense que tu as donné à tout le monde envie d'aller à l'année prochaine.
Non, mais sinon, la programmation...
Parce que l'année prochaine, ils pourront aller voir les films.
Au-delà des films asiatiques, la programmation était superbe. Il y avait d'autres super films, notamment les films anglais. Vraiment, la programmation était d'un très haut niveau.
Il y avait Johnny Hallyday.
Je ne l'ai pas vu celui-là.
Apparemment, il est fan de
le film de Lelouch, je n'ai pas eu le temps de le voir.
Il est resté 2 secondes.
Mais la programmation était vraiment très bonne.
C'est trop.
Voilà.
Donc,
c'est un hommage en fait.
Donc, nous avons fait une petite introduction un peu mouvementée sur les festivals. Nous allons maintenant parler de 3 news marquantes du mois d'avril. La première, qui est tombée au début du mois, c'est 15 ans après le succès d'Ang Lee, Tigre et Dragon, une suite a été annoncée. Donc apparemment, c'est une suite plutôt écologique vu que ça s'appelle The Green Destiny. C'est cette fois-ci réalisé par Wang Yuping, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein, vu que c'est lui qui a réalisé les seules séquences du premier film qui vaille le coup d'œil. Hein.
Connais ton amour pour Ang Lee.
C'est toujours produit par les Weinstein, c'est avec Michelle Yeoh et Donnie Yen, et je voulais vous demander si, d'après vous, ce film, Tigre et Dragon 2, était un peu le boost dont le Wu Xiaopia a besoin aujourd'hui. Justin, peut-être.
Le boost peut-être au niveau de la diffusion, vu que le Tigre et Dragon est quand même pas mal aidé à la connaissance du genre en France, hein, même dans le monde, c'était un carton mondial. Donc éventuellement là-dessus. Après, niveau qualité, je trouve le Ang Lee vieillit quand même assez mal. Une fois que. Enfin, c'est bien quand on est novice, c'est une bonne introduction. D'accord. Mais une fois qu'on a un peu vu pas mal de Wuxiapian, de Shaw Brothers, de films des années 80, de Wuxian des années 80, ça fait limite cliché, ça fait très européanisé, très, très fade. Donc c'était une bonne introduction, ça peut faire le même effet pour la suite, mais ensuite il faudra voir les classiques du genre. Après il faut voir, avec Wang Yuping, peut-être ça sera un peu plus fou aussi au niveau des chorégraphies, au niveau de l'intrigue, vu que généralement quand c'est à la réelle, ça... C'est quand même assez barré.
Ah, mais il y a les Weinstein derrière, donc ça risque d'influer un peu. Enfin,
Ouais, c'est quand même quand il fait des grosses prods, c'était quoi son dernier là, avec. Qui était sorti en salle il y a 2 ans là.
Oui, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, et beaucoup défendu, et j'ai oublié son titre.
Moi aussi.
Il y avait un côté un peu kitsch, mais effectivement, il y avait.
En plus, il y avait le côté mise en abîme en plus du Wuxiapian, comment ça s'appelait
True Legend.
Ouais.
Et il y avait un petit côté mise en abîme du Wuxiapian, ça reprenait des clichés, ça se moquait, puis ça rendait un peu hommage aussi. C'était pas mal, donc bon, si on le laisse faire ce qu'il veut, ce sera peut-être un peu plus fou, un peu plus original que.
Ça sent quand même le projet un peu opportuniste. Oui. Puis je sais pas. Je pense pas que les gens soient soit partant pour ce genre de choses actuellement. On voit bien, voilà, on a vu 47 Ronin qui s'est ramassé. Quoi, l'Asie,
c'est vrai que c'était dans une bonne mouvance, c'est le premier, ça, parce qu'il y avait eu Matrix exactement. Avant. Donc il y a une espèce
Matrix
de
montée, vraiment, ouais,
ça avait portes, bien boosté.
Et maintenant, j'ai l'impression que les gens ne sont plus dans ce oui. dans ce truc-là. Ils veulent voir du super-héros ou des trucs comme ça, mais le Wuxia comme ça, même si c'est réalisé par Wen Wuping, on va, voilà, j'imagine bien déjà les grosses taglines par le chorégraphe de Matrix, Matrix, etc. Ouais. Mais ça va être comme ça.
Ah,
c'est
par les créateurs de Matrix
voilà,
et c'est de Kill Bill.
Voilà,
c'est pour ça qu'ils l'ont choisi.
C'est ça. C'est ça. Et je pense que ça sent plus l'opportunisme qu'autre chose, mais ils veulent raviver quelque chose qui est pour moi qui est un peu mort. Quoi.
Et puis Levenstein, effectivement, mieux vaudra avoir un montage chinois que le montage monde.
Il y aura toujours deux montages avec eux, de toute façon, le montage pour le réalisateur et le montage qui leur plaît. Quoi.
C'est par contre, il faut voir quel marché ils visent, parce que s'ils visent la Chine, ça peut être intéressant. Oui.
Parce qu'à la rigueur, oui, en Chine, ça peut avoir un gros succès.
Je pense pas qu'ils visent la Chine.
Ouais, c'est aussi.
Le problème, c'est qu'aux États-Unis, les films asiatiques, ils ont plus du tout de succès. The Raid 2, enfin, en même temps, ils l'ont sorti en limité. Ce
qui ils l'ont sorti quand même sur 900 salles, hein, The Raid 2.
Aux États-Unis?
Bah, je crois.
C'est pas sur IMDb. Enfin, bon, je sais pas si c'est crédible IMDb, mais il y a marqué que c'est sorti en limité. Hein.
Bah, pour les États-Unis, c'est pas énorme, mais c'est quand même.
Oui, pour un film étranger, oui. Ouais.
Mais il s'est ramassé. Hein,
The Raid oui, il s'est ramassé, ouais.
C'était un massacre.
C'est 2h30, ça peut-être pas aider aussi.
Ouais.
À propos de massacre, non, en fait, pas du tout. on a eu les premières images de Quand Marnie était là, qui n'est pas une préquelle du Printemps pour Marnie, les fans d'Hitchcock comprendront, mais le nouveau Ghibli qui sort le 19 juillet au Japon, qui est donc réalisé par le réalisateur de Darietti. Qui a vu ces images
là,
et qu'est-ce qu'elles vous ont inspiré? Je sais qu'Albert, tu les as vues comme tu as écrit la news et tu les as mis sur le site. Donc, oui. A priori, quelles ont été tes impressions sur ces premières images du nouveau Ghibli?
Il n'y a que 3 images qui ont été sorties. C'est pas énorme non plus. Sur 3 images, oui, bon, ça a l'air joli, mais après, à voir, quoi.
Arrietty aussi, c'était joli.
C'était pas bien. Mais Arrietty, c'était pas bien, oui. Donc, à voir ce que ça donnera. Sur 3 images, c'est un peu compliqué de juger, quand même.
Ça va être le Ghibli intermédiaire, quoi. On attend
il a gagné un peu de personnalité, entre-temps.
D'ailleurs, le Takahata sera Annecy, pour ceux qui...
Oui, il sera Annecy,
qui vit dans les environs, quoi. C'est intéressant.
Ouais. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que quand Marnie était là, on s'en fout.
Ouais, ça
pour l'instant, un peu quand même.
Non, mais on a peur parce qu'on a vu Arrietty.
Faut voir la bande-annonce, quoi.
On a envie de voir si le réel a trouvé sa propre voie et son propre univers et qu'il essaye pas de copier du Miyazaki. Quoi. On a envie de voir autre chose chez Ghibli et on en a déjà beaucoup parlé. Et,
Tango, le deuxième, la colline des coquelicots, personne ne l'attendait, alors voilà. Parce que le conte de Terre-Mère n'était pas terrible. Voilà. Donc, c'est jamais peut-être qu'il a pris du bagage.
C'est pas pour ce printemps, non enfin,
Non, ça va être le prochain.
Jeu de mots.
Nous allons donc maintenant parler d'un autre réalisateur qui commence à prendre. Quelques projets importants en Asie, qui est un réalisateur français, puisque Luc Besson n'est pas qu'à Brooklyn pour faire Taxi Brooklyn, mais il est aussi en Corée et en Chine. Alors on va commencer par la Chine, il a annoncé un Warriors Gate, donc qui est une production donc Europa Corps et une production chinoise également. Est-ce que quelqu'un sait de quoi ça parle et est-ce que ça vous donne envie
pour, je me demande déjà au brainstorming voilà. Comment ils ont choisi le titre du film. Ça devait être super intéressant. Dragon's Gate. Warrior, c'est des guerriers. Warrior Gate. Oh, trop bien, ouais, trop bien.
Non, mais en fait, on est très bien. Voilà, Besson, on a beau dire ce qu'on veut, mais Besson, il est très très puissant. Il a détruit notre cinéma, un peu. Hein, le cinéma. Non, mais je te parle vraiment du cinéma d'exploitation. De la petite série B, voilà, la comédie policière, ou je sais pas, il nous a fait du Taxi, après avec Europa Corp, il nous a fait du Banlieue 13, tout ça, il nous a matraqué. Après, il est parti aux États-Unis, il a fait la même chose. Il a, avec ses Non-Stop et Taken, il nous a tué la série B américaine.
Taken, c'est rigolo.
Taken, c'est fun.
Là, j'ai vu le
Three Days to Kill
qui est le film le plus con que j'ai vu depuis au moins 15 ans.
Non, moi je parlais de Taken, sinon Besson il est à tuer. Hein.
Et maintenant il part en Chine pour se faire encore des dollars parce que c'est là-bas que tout se passe en ce moment.
C'est ça, c'est le marché.
Et il va faire pareil, il va nous tuer le cinéma chinois qui est déjà dans un état.
Est-ce que le cinéma chinois a besoin de lui justement?
Non, je pense pas. Mais il va amener son côté supra beauf et un peu beaucoup concon et ça va être une catastrophe.
Il va peut-être faire une école de cinéma pour les Chinois aussi.
Oui, mais c'est juste...
La deuxième production de Besson qui nous intéresse, c'est Lucy, qui est son... Je crois que c'est son prochain film. Avec Sarah Johnson, mais surtout Choi Min-sik. Ouais. Donc là aussi, il commence à prendre des acteurs dont on reconnaît en tout cas le visage en France, en Europe et un peu partout dans le monde. Donc pour faire des films.
Oui, il est malin quoi, on peut pas lui enlever ça. Il a le flair et
il profite. Pour lui, c'est vraiment les films qu'il fait ou qu'il produit, c'est vraiment le.
On parlait de Weinstein. Voilà, le succès.
C'est devenu des produits. C'est juste des produits marketing ces films maintenant. On prend tout ce qui va rapporter de l'argent le plus possible, les acteurs, au niveau des scénarios, du pays où il fallait tourner.
Il y a un truc dans les prods d'Europa Corp, il y a quelque chose. On reconnaît.
On reconnaît sa patte de produit marketing quoi. C'est ça.
Il y a un grand black.
Oui, non, mais c'est presque ça, quoi. Avec les blagues un peu racistes, tu sais, mais tangents, quoi.
Il veut remettre au goût du jour les acteurs un peu old school, De Niro, Costner, voilà, c'est son. C'est...
Michel Pfeiffer.
Aussi.
Ouais. Il est pauvre, quoi. J'ai vu que Costner, moi, il m'a fait de la peine, quoi.
Il fait de la peine dans le film.
Putain.
Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur Besson?
Je crois qu'il a un projet en Afrique aussi. Enfin, c'est un cousin qui m'a dit ça.
Le remake de Out of Africa,
c'est ça. Je ne m'avance pas, oui. Ça va tourner autour de ça. Mais...
Avec Meryl Streep en.
La troisième news qui nous a intéressé ce mois-ci, c'est des nouvelles de Hong Sang-soo. Qui apparemment Elvire serait interdit au moins de 18 ans en Corée pour son prochain film.
Oui, donc son prochain film dont j'ai complètement oublié le nom. De toute façon, c'est pas un nom définitif en anglais, c'est une traduction du nom coréen. Qui raconte l'histoire d'un japonais qui débarque en Corée pour retrouver son premier amour et qui finit dans une auberge et qui rencontre plein de gens.
Comme d'habitude.
Mais cette fois-ci, en fait, le film sera interdit au moins de 18 ans par le comité de censure sud-coréen.
On sait ce qui va se passer, quoi.
Donc, apparemment, ce serait pas par rapport aux scènes qu'il y aurait, mais sur le fond de l'histoire qui ne serait pas compréhensible pour les moins de 18 ans. Mais c'est... Enfin, ça me paraît un peu étrange, en fait, mais à voir.
Est-ce que c'est pas un moyen encore plus de...
Bah, je pense que c'est un moyen encore
d'ostraciser un peu pour l'ostraciser. En tout cas, qui marche. On marge un peu des positions.
Qui marche pas du tout en Corée, en fait. Mais bon, après, il aura certainement une sortie en France, on pourra juger par nous-mêmes. Mais donc oui, je pense que c'est un moyen, comme pour les films de Kim Ki-duk, même s'ils ont une certaine raison d'être interdits au moins de 18 ans, c'est un moyen de l'ostraciser aussi. Quoi.
D'ailleurs, il sort quand, Our Son Yi? Il y a une date depuis?
Our Son Yi, j'en sais rien.
Toujours pas, non.
Ouais.
Je sais pas
en tout cas, la Corée, ça va pas trop bien non plus. Il y a une logique d'exploitation. Dès qu'on fait des grosses productions, les blockbusters, ça va bien. Mais les auteurs, on a tendance un peu à les mettre de côté. C'est un peu,
après, ils ont un certain succès à l'étranger, en fait. Pas dans leur pays, mais à l'étranger. Sachant que les films qui sortent à l'étranger ont en général... ne marchent généralement pas en Corée, en fait. Ils font certains films pour le public étranger et certains films pour le public coréen.
Et inversement, d'ailleurs, puisque les blockbusters, on va parler de pandémie tout à l'heure, ne sortent ici éventuellement qu'en DVD, alors que ça fait des millions d'entrées en Corée.
Et parce qu'ils pensent, en fait, qu'on n'a pas les mêmes goûts, tout simplement. Mmh.
Ils pensent à notre place, c'est bien ça le problème.
Bah oui, on est différents des Coréens.
Après, il n'y a pas de demande aussi. Si un distributeur l'avait vu, avait apprécié, il aurait peut-être
essayé
de le sortir.
Les distributeurs aussi pensent à notre place. Quoi. Tout le monde pense à notre place.
Bon, en même temps, je remercie plutôt Elsaï de ne pas avoir sorti Pandémie en cinéma.
Non, faut pas déconner.
Puisqu'on va en parler dans la partie suivante.